France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's and in the house.
Halliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Le jour d'après, après le plan Trump pour Gaza et dans l'attente de la réponse du Hamas, c'est avec Jean-Noël Barrot que nous discutons ce soir, le ministre des Affaires étrangères. On a envie de savoir ce qu'il en pense de ce plan et puis ce qu'il advient aussi des initiatives françaises. Keir Starmer est-il un Premier ministre en sursis, y compris dans son propre camp? C'est le Monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Le reportage d'Un jour dans le Monde est un retour en Serbie, où les manifestations étudiantes qui courent depuis plus d'un an sont de plus en plus réprimées.
La justice, la violence, les médias, les insultes, les autorités utilisent tous les moyens dont elles disposent pour réprimer leurs citoyens.
Un reportage de Louis Seyé à découvrir autour de 18h41. Les auteurs de violences conjugales en Australie auront désormais une surveillance très étroite de toute leur activité en ligne. Guillaume Audat vous le raconte dans Sous les radars. C'est quoi le travail d'un directeur à la concurrence à l'Union européenne? Ça, c'est Caroline Gillet qui le sait. C'est la porte de l'Europe qu'elle ouvre en ce mardi. Le monde est vaste. Et on n'a pas une heure. Allons-y.
Nombre de dirigeants européens, ils ont appelé pour savoir si c'était une rumeur ou si c'était vrai. Est-ce que vous êtes vraiment en train de conclure la paix au Moyen-Orient? C'est vraiment la chose la plus incroyable que nous ayons jamais entendue.
Trump hier, donc à la Maison-Blanche, évidemment, après son entretien avec Benjamin Netanyahou. Des remarques qui n'appellent pas de commentaires. Bonsoir Jean-Noël Barrot.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Ce plan Trump, monsieur le ministre, est suspendu désormais à une réponse du Hamas. Deux ou trois jours d'ailleurs devant eux, sinon l'enfer s'abattra sur eux. C'est ce qu'a dit Donald Trump aujourd'hui même. Est-ce que vous le trouvez suffisamment carré, ce plan américain, monsieur Barrot? Est-ce que c'est le plan d'une fin de guerre selon vous ou pas?
Écoutez, je viens de m'entretenir avec mon collègue américain, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, et je l'ai d'abord salué pour les efforts que les États-Unis ont consentis pour en arriver là, et je l'ai remercié d'avoir tenu compte des idées françaises, celles que nous avons portées depuis de longs mois avec nos partenaires. Et puis ensuite, nous nous sommes coordonnés, d'abord pour nous assurer que les parties allaient bien se saisir de cette opportunité, et c'est évidemment le Hamas qu'il faut presser à le faire, et puis pour la mise en œuvre de ce plan de paix et les garanties que nous voulons donner qui puissent rencontrer un succès.
Alors on y reviendra dans un instant. À ce point 9 et la patte française à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, Jean-Noël Barrot, quand même, juste dans le détail. Les Palestiniens de Gaza donc ne sont plus forcés à partir désormais. La Cisjordanie, c'est ce que dit le plan à nouveau, ne sera pas annexée. Le Hamas désarmé, ses membres, certains de ses membres seront amnistiés. Dans l'autre sens, les otages, bien sûr, seront rendus à leur famille. Est-ce que vous avez le sentiment d'un équilibre? Parce que c'est aussi à ça que ça marche, un plan de ce genre. C'est un équilibre entre les concessions de chacun qui seront difficiles à admettre, autant pour le Hamas que pour une partie de la droite israélienne, mais est-ce que vous voyez un équilibre là-dessous, vous ?
C'est effectivement l'objectif d'un plan de paix, c'est de trouver le bon équilibre. C'est ce que nous nous sommes efforcés à faire avec l'Arabie Saoudite et nos partenaires pendant de longs mois. Et je me félicite de retrouver dans ce plan, présenté hier par le président Trump, un certain nombre de grands principes, et notamment la distribution de l'aide humanitaire par les Nations Unies, l'administration transitoire qui sera dirigée par un comité technique, la mission internationale de stabilisation qui va assurer la sécurité des Palestiniens comme des Israéliens, et puis cet horizon politique qui nous amène vers une coexistence pacifique. On est bien loin des projets de Riviera dont on nous avait parlé il y a quelques mois. On a face à nous un plan dont il faut maintenant que les deux parties puissent se saisir, et en particulier le Hamas.
Alors vous dites quand même une administration transitoire. L'administration transitoire, on la connaît, c'est donc une autorité extérieure qui est présidée par Donald Trump lui-même et confiée à Tony Blair. Ça vous semble pertinent ça quand même? Et surtout, est-ce que ça vous semble de nature à être suivi par les Palestiniens?
Si vous lisez dans le détail le plan qui a été présenté par le président Trump, il y a, s'agissant de cette organisation administrative transitoire pour la bande de Gaza, une référence claire
jusqu'à ce que l'autorité palestinienne ait terminé son programme de réforme, etc., et une référence à la proposition franco-saoudienne. Mais en attendant, monsieur Barrot, ça, on ne sait pas quand ça va advenir. Il va y avoir cet entre-deux. Ça peut durer, cet entre-deux-là. Est-ce qu'il vous semble pertinent ?
Mais l'objectif précisément, c'est d'aller au plus vite vers les réformes de l'autorité palestinienne, auxquelles d'ailleurs le président de cette autorité s'est d'ores et déjà engagé devant le président de la République et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Réformes scolaires pour déradicaliser la société palestinienne, fin de l'indemnisation des prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme, et puis surtout réformes institutionnelles profondes, élections législatives et présidentielles dès l'année 2026, pour renouveler je dirais la génération des dirigeants et faire en sorte que cette autorité soit capable de prendre en main l'administration de Gaza et plus largement de la Palestine.
Vous ne pensez pas quand même, Monsieur Barrot, qu'on s'éloigne à grands pas d'un État palestinien, celui que la France a reconnu il n'y a pas si longtemps, et surtout d'une solution à deux États?
Je crois qu'au contraire, il était illusoire d'imaginer avoir un cessez-le-feu et la libération des otages sans un plan consensuel pour l'immédiat après-guerre, ce que l'on appelle le jour d'après. Et il était illusoire d'imaginer pouvoir faire adhérer les pays arabes de la région à un tel plan pour le jour d'après, sans tracer, sans dessiner un horizon politique. C'est ce que nous avons fait à New York la semaine dernière, et c'est ce que l'on retrouve dans ce plan, qui évoque clairement l'aspiration légitime du peuple palestinien à disposer de son propre État, et la coexistence pacifique entre les deux peuples.
Il y a un point qui est très unilatéral dans ce plan, et d'ailleurs Donald Trump l'a rappelé aujourd'hui. Il redit que le Hamas a 3 ou 4 jours pour répondre. Sinon, donc, il autorise Israël à finir le boulot. Ça, ce sont les termes utilisés à la fois par Donald Trump et par Benjamin Netanyahou hier. C'est quand même un coup mortel qu'on laisse entre les mains du Premier ministre israélien. Soit c'est tout, soit on rase, en fait. C'est comme ça que je le lis, moi.
Il me semble que le Hamas n'a plus aucune excuse pour rejeter la proposition qui lui est faite. Nous avons, grâce à nos efforts avec l'Arabie Saoudite, obtenu le 12 septembre dernier la condamnation du Hamas pour ses crimes, l'appel à son désarmement et à son exclusion de tout futur rôle dans la gouvernance de Gaza et de la Palestine. Nous l'avons obtenu de la part de l'écrasante majorité des pays du monde par un vote qui s'est tenu aux Nations Unies. Le Hamas est désormais définitivement isolé, il est désavoué catégoriquement, il doit se rendre à l'évidence, il a perdu et il doit saisir l'opportunité qui lui est donnée de désarmer et de s'exiler.
Est-ce que vous auriez aimé voir un calendrier de sortie de l'armée israélienne de Gaza? Aujourd'hui même, Benjamin Netanyahou semble dire que de toute façon, même en cas de cessez-le-feu, y compris permanent, elle resterait dans la bande de Gaza?
On peut toujours espérer, évidemment, que ce retrait puisse avoir lieu le plus rapidement possible, mais à condition de se donner les moyens de garantir la sécurité à Gaza. Et c'est pourquoi nous avons proposé, dans cette déclaration de New York, mais je dirais dans le détail, de pouvoir contribuer à la définition d'une mission internationale de stabilisation, qui peut être un travail qui peut être mis en œuvre dès aujourd'hui, avec la formation de ceux qui, demain, assureront la sécurité des Palestiniens comme des Israéliens. Et donc, c'est en parvenant au plus vite à une solution, si je puis dire, de substitution, incluant bien évidemment les Palestiniens, que nous retirons toute forme de justification au maintien des forces israéliennes à Gaza.
Parce que si le Hamas refuse le plan, on sait très bien ce qui risque de se passer. Si il y a un conseil des ministres important dimanche en Israël, si c'est la droite israélienne qui refuse le plan, qu'est-ce qui se passe?
Le Hamas porte une responsabilité écrasante dans la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui à Gaza et qui demeure catastrophique. Le 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire, a fait plus de 1200 victimes, dont 51 Français que nous plairons encore. Le Hamas doit se rendre à l'évidence, il a perdu et il doit rendre les armes.
Monsieur Barrot, une dernière chose, ou presque, vous partez pour l'Arabie Saoudite, si je ne m'abuse, demain ou après-demain. En tout cas, vous allez rencontrer Mohamed Ben Salman. Qu'est-ce qu'il en reste, en fait? Alors, vous avez cité tout à l'heure, effectivement, le point 9 et qui faisait allusion au plan de paix français. Mais au fond, à quel moment on garde la main, nous, avec ce plan de paix-là et ce plan de paix franco-saoudien?
ce plan de paix n'a pas été conçu uniquement pour aboutir au cessez-le-feu, à la libération des otages et à l'entrée massive de l'aide humanitaire tant attendue à Gaza. Il a été conçu pour que toutes les parties prenantes, pays arabes, pays européens, prennent leur part dans ce qui doit être une perspective de paix et de stabilité dans la région. Et donc, en Arabie Saoudite, cette semaine, je retrouverai mes homologues arabes pour que nous puissions, là aussi, nous coordonner sur la mise en œuvre de chacune des étapes de ce plan. Et puis, nous aurons l'occasion, évidemment, d'aborder d'autres sujets sur lesquels la France est engagée. Je pense au redressement du Liban ou celui de la Syrie.
Il nous reste peu de temps, Monsieur Barrot. J'ai un mot sur le Conseil européen informel de demain, si vous le voulez bien, à Copenhague, auquel vous n'y êtes pas, puisque c'est un Conseil européen, c'est les chefs d'État qui y sont, centrés à la fois sur le soutien à l'Ukraine, mais aussi à un moment quand même où le Danemark constate la présence de drones sur son espace aérien. La France va aider le Danemark dans sa défense anti-drone. Vous avez dit récemment, Poutine nous teste. Qu'est-ce qu'on fait s'il continue ses provocations ?
Alors je crois surtout que Poutine est en échec, qu'il est en échec militairement, qu'il est en échec politiquement et économiquement. Et que pour masquer cet échec, il a multiplié ces dernières semaines les provocations aux frontières de l'Union européenne et de l'OTAN. Et face à ces provocations, notre réaction a été implacable. Et c'est ça a été le cas en Estonie, ça a été le cas en Pologne et en Roumanie. Vous évoquez le sujet des drones. Là encore, même si l'origine exacte de ces drones n'est pas encore tout à fait caractérisée, nous avons marqué notre solidarité indéfectible avec le Danemark et sa sécurité. Et le président de la République a décidé de déployer des moyens de lutte anti-drones avec 5 équipes légères et un hélicoptère pour assurer la sécurité du sommet qui se tiendra ces prochains jours à Copenhague.
Mais il nous pousse à la faute, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi la faute ? Ce serait répondre ?
En tout cas, il commettrait une très lourde erreur s'il doutait encore de l'unité européenne, de sa préparation et de sa résolution. Si il poursuivait son escalade dangereuse, nous serons prêts à réagir pour défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN et de l'Union européenne.
Sachant que, évidemment, sur le tapis de ce Conseil reviennent à nouveau les sanctions. On est au 19e paquet, Monsieur Barrot. Ça fait beaucoup de paquets pour des Russes qui continuent à faire la guerre.
Mais dont l'économie est en train de s'effondrer sur elle-même. Et vous voyez, plutôt que de nous décourager avec ces provocations, je le disais, en Estonie, en Roumanie ou en Pologne, Vladimir Poutine n'a fait qu'accroître notre détermination et c'est ainsi qu'effectivement, ce nouveau paquet de sanctions, le premier coordonné avec l'administration Trump, sera encore plus dévastateur que les précédents, avec la sortie complète du gaz russe au 1er janvier 2027 et puis des désignations des principales entreprises pétrolière russe pour assécher les ressources que Vladimir Poutine engouffre dans sa guerre coloniale.
Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de votre passage dans Un jour dans le monde. Merci à Olivia Branger qui a assuré la liaison depuis votre bureau au Quai d'Orsay. La suite ce soir, comme chaque soir, c'est Frédéric Seyss qui remet le monde à l'endroit.
Et je vous emmène, Fabienne, au Royaume-Uni, un premier ministre fragilisé par l'extrême droite, mais aussi par ses propres troupes.
Et ce sera juste après ça. Old
war. Love is peace. Love is such a tasty treat. But when it's done, love is on, love is queer. Love will take you out of here to find someone. What is the reason for it? Why is it there? Is it my body?
David Byrne, What is the reason for it? C'est la voix des Talking Heads dans la playlist d'Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Frédéric, le Premier ministre Keir Starmer peut-il réenchanter la Grande-Bretagne?
Et c'est d'ailleurs le slogan qu'il a mis en avant sur son pupitre cet après-midi, Renew Britain, renouveler la Grande-Bretagne. Un discours crucial devant le congrès annuel de son parti, le centre-gauche, les travaillistes, au pouvoir depuis un an et demi. Keir Starmer, lunettes sérieuses, costume cintré, debout devant un fond rouge, couleur éclatante qui contraste avec la pâleur de sa propre cote de popularité. 13% d'approbation, selon un sondage Ipsos, plus mauvais score pour un Premier ministre depuis 1977. Voilà pourquoi cette allocution était inratable dans les deux sens du terme pour le chef du gouvernement. Il s'agissait de remobiliser les troupes, de reprendre l'offensive, en particulier face à l'extrême droite qui, elle, ne cesse de progresser dans les enquêtes d'opinion.
Et donc notamment le parti nationaliste Reform UK qui est donné en première position.
Oui, anti-immigration et anti-élite, ce parti dirigé par Nigel Farage a peu à peu grignoté l'espace politique de la droite classique au point qu'il se pose désormais en seule alternative au gouvernement de centre-gauche. Voilà pourquoi Keir Starmer hausse le ton. Il qualifie désormais de raciste le programme de Nigel Farage qui veut expulser des étrangers présents légalement sur le sol britannique. Deux semaines après la grande manifestation anti-immigration à Londres, cet après-midi, le Premier ministre a fait brandir des drapeaux britanniques à ses militants avec ce mot d'ordre « Les vrais patriotes, c'est nous ». Et sur le fond, pour tenter d'assécher la dynamique de l'extrême droite, Keir Starmer durcit ostensiblement sa politique migratoire depuis plusieurs mois, ce qui ne manque pas bien sûr de créer des remous dans son propre parti.
Voilà, parce qu'à force de pencher vers la droite, le Premier ministre britannique doit faire face à la rébellion de son aile gauche, Frédéric.
Oui, et pas seulement sur l'immigration d'ailleurs, sur l'économie aussi, Keir Starmer se présente comme un réaliste. Si nous ne savons pas maîtriser les dépenses, alors nous ne sommes pas dignes de gouverner, a-t-il lancé il y a quelques minutes. Keir Starmer, l'ancien juriste, au phrasé un brin technocrate, annonce des décisions budgétaires difficiles. Il a déjà réformé les allocations sociales pour qu'elles soient moins coûteuses. Alors c'est vrai que ça ne fait pas rêver l'aile gauche de son parti, une aile gauche qui fait les yeux doux à un autre homme. Andy Burnham, c'est le maire de Manchester. Dans sa ville, il a renforcé les services publics, les réseaux de transport et surtout, il est vu comme l'homme du peuple et des régions, loin du sérail de Londres, me disait Alistair Cole, professeur de sciences politiques à l'IEP de Lyon. Alors pour lutter contre cette image de londonien déconnecté, Keir Starmer rappelle que son père était ajusteur-outilleur et dans son discours, il promet aussi plus d'investissements en dehors de la capitale. Applaudissements debout des militants comme un répit pour le chef du gouvernement, en tout cas jusqu'aux élections municipales du printemps prochain. Et en cas de défaite cinglante, alors ce n'est pas la Grande-Bretagne qui sera renouvelée, mais sans doute le poste de Premier ministre.
Frédéric Seyss, c'est le monde à l'endroit. Merci beaucoup et à demain.
Thank you.
Le reportage d'Un jour dans le monde retourne en Serbie ce soir. Voilà bientôt un an que la Serbie est secouée par un important mouvement de protestation contre la corruption. Vous l'avez souvent entendu ici même, depuis la catastrophe de la gare tout juste rénovée de Novi Sad. 16 morts le 1er novembre 2024. Le régime autoritaire d'Aleksandar Vučić est dénoncé par des manifestations très régulièrement. Le président Vučić, notoirement proche de la Russie, refuse toujours d'organiser des élections anticipées. Les étudiants, à la pointe de ce mouvement pacifique et démocratique, font face à une répression de plus en plus violente. Et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Comme des milliers de jeunes Serbes, Dušan Cvetković a passé l'été à bloquer les rues de Belgrade pour exiger des élections anticipées. Mais le 14 août dernier, lors d'un rassemblement près de la place Slavia, le destin de cet étudiant en physique bascule.
Je me tenais tranquillement près de la fontaine quand une voiture sans plaque est arrivée. Des hommes en civil en sont sortis et l'un d'entre eux s'est précipité vers moi et m'a violemment jeté au sol. Quatre ou cinq autres hommes sont arrivés et ils ont commencé à me frapper, à me donner des coups de poing au visage. Ils m'ont donné des coups de pied et frappé la tête contre le sol.
Embarqué par les hommes de cette unité spéciale, Dušan affirme avoir été battu et menacé de mort dans un garage situé sous le siège du gouvernement avant d'être relâché 3 heures plus tard. Le lendemain, à quelques centaines de mètres de là, Aleksandra Nikolić tombe à terre lors d'une charge policière. Elle reçoit un coup de matraque sur le crâne.
Vu comment la police s'était comportée pendant les 10 mois de contestation auparavant, je ne m'attendais à rien de bon de leur part. Mais je n'imaginais quand même pas qu'ils nous frappent alors que nous étions deux femmes au sol.
Sur son téléphone, l'étudiante en droit montre les photos de son visage ensanglanté.
Quand nous nous sommes relevés, les ambulanciers qui étaient juste à côté ont refusé de nous donner les premiers soins. C'était juste choquant, triste. Je ne sais même plus quoi penser de tout ça.
La jeune fille se rendra ce soir-là par ses propres moyens à l'hôpital, 3 points de suture sur le crâne et 2 dents cassées. Comme beaucoup d'étudiants, Aleksandra n'était pas politisée, mais elle s'est investie dans le mouvement anticorruption après le drame de la gare de Novi Sad. Elle dénonce la dérive autoritaire du régime du président Vučić.
La justice, la violence, les médias, les insultes. Les autorités utilisent tous les moyens dont elles disposent pour réprimer leurs citoyens. Personnellement, je considère que ça relève d'un type de fascisme, avec cette philosophie du « ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous ».
La jeune fille se rendra ce soir-là par ses propres moyens à l'hôpital, 3 points de suture sur le crâne et 2 dents cassées. Comme beaucoup d'étudiants, Aleksandra n'était pas politisée, mais elle s'est investie dans le mouvement anticorruption après le drame de la gare de Novi Sad. Elle dénonce la dérive autoritaire du régime du président Vučić.
Il est clair que ce régime perçoit les jeunes, les étudiants et les citoyens qui se révoltent comme des ennemis. Parce que tous ces gens veulent instaurer un nouveau système et de nouvelles valeurs pour gouverner afin que la Serbie devienne enfin un pays européen comme les autres.
La répression dépasse aujourd'hui largement le cercle des étudiants. De nombreux fonctionnaires ont été limogés ou suspendus pour leur soutien aux manifestations. Mais malgré ces pressions et le traumatisme des violences subies, Dušan compte bien poursuivre sa mobilisation pour une Serbie plus démocratique.
Bien sûr que j'ai peur. Je pense que c'est un sentiment naturel et humain d'avoir peur dans ce contexte. Mais je continue d'aller aux manifs et je n'arrêterai pas d'aller protester. C'est essentiel qu'on exerce cette liberté.
Alors que le président Vučić se montre inflexible, des élections pourraient avoir lieu en avril prochain. En attendant, les étudiants se préparent et ils envisagent de présenter leur propre liste lors de ces législatives. Ils espèrent ainsi ouvrir des premières brèches dans un système jusque-là verrouillé.
Louis Seyé pour le reportage, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est Guillaume Audat qui va chercher sous les radars l'actualité internationale.
Sous les radars en Chine, qui condamne à mort 16 membres cybercriminels d'une seule et même famille.
Et le mardi, c'est Caroline au Pays des 27.
Oui, ce soir avec un ancien directeur général à la concurrence qui a participé notamment à mettre des amendes aux GAFAM.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète continue les amis. Comme chaque soir, il fait escale dans l'Arkansas avec Al Green de Letter et ça date de 69.
Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing.
gotta get back and see my baby again. No, no, no.
C'était la lettre d'Al Green et on l'a bien reçue. Tiens, super, dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Sous les radars, c'est Guillaume Audat.
The New South Wales government will introduce rental reforms this week aimed at protecting and supporting.
Voici une information, Guillaume, qui concerne toutes les femmes en Australie. Désormais, c'est dans la loi. Les auteurs de violences conjugales seront soumis à des contrôles très stricts de leur activité en ligne.
Voilà, un post sur Facebook, un like sur Instagram ou même votre profil mis en ligne sur une application de rencontre. L'Australie a décidé de frapper très fort contre les violences conjugales, contre leurs auteurs en particulier. Dès lors qu'ils ont été condamnés, voire même signalés dans le cadre d'une plainte, leurs réseaux sociaux seront en effet scrutés à la loupe pour tenter de prévenir le moindre dérapage. C'est la Nouvelle-Galles du Sud qui ouvre la voie, l'un des 6 États australiens dont la capitale est Sydney, ville marquée l'année dernière par une série de féminicides. Une loi a été votée en 2024, elle est entrée en vigueur hier et elle renverse la charge. C'est l'agresseur qui doit subir au quotidien et non plus sa victime. Au-delà de l'aspect réseaux sociaux, les femmes victimes pourront par exemple changer la serrure de leur appartement sans demander l'avis des propriétaires. C'est une révolution dans ce pays, l'Australie, qui en proportion à un taux de féminicide presque 3 fois plus élevé que la France, dont le taux est déjà assez élevé. Une révolution est donc pour nous une source d'inspiration.
Cybercriminalité, c'est le sujet à la une de ce JT en Chine, Guillaume, où un tribunal a condamné 16 membres d'une seule et même famille à la peine de mort.
Voilà, et on les voit entrer les uns après les autres, la mine sombre, défaite, à l'intérieur du tribunal de Wenzhou, dans l'est de la Chine. Ils sont escortés jusqu'à leur banc par des policiers. Il y a parmi les prévenus des hommes et une femme. On est à quelques minutes de leur condamnation. Tous savent ce qu'ils risquent à cet instant-là. La peine capitale mise en scène soignée, parce que le procès de la famille Ming, ça n'est pas seulement une affaire de cybercriminalité, c'est un signal politique très fort que veut envoyer Pékin en Asie du Sud-Est et spécialement en Birmanie, frontalière de la Chine. L'arnaque en ligne est un business colossal qui génère des milliards d'euros chaque année et dans lequel des travailleurs sont exploités 16 heures par jour, tous les jours, dans des sortes d'usines à trolls. L'une d'elles est opérée par cette fameuse famille Ming, dont 16 membres, on l'a dit, sont condamnés à mort pour avoir fait abattre 10 employés qui cherchaient à s'enfuir de cette usine. Pékin a donc sorti le glaive contre une mafia qui prospère et gangrène tout le continent asiatique.
The global surge in demand for critical minerals, there is an increased need for transparency.
Transparence, il s'agit de ça en RDC, mais où passe l'argent du fonds minier? L'extraction, c'est la première ressource de ce pays d'Afrique, mais pas forcément au bénéfice évidemment des futures générations.
Alors que c'est tout l'objet de ce fonds minier en République démocratique du Congo que de faire fructifier une partie des ressources issues de l'exploitation des mines, donc de cobalt, mais aussi de cuivre, d'or ou encore de coltan, un minerai stratégique que l'on trouve dans tous les téléphones portables. Juste un ordre d'idée, les exportations minières, elles rapportent environ 24 milliards de dollars par an à Kinshasa. D'où l'idée de ce fonds minier destiné à préparer l'après-mine en RDC. Ça, c'est l'objectif sur le papier, parce que ce fonds minier est ciblé par une ONG, AfriWatch, qui dénonce le détournement de l'argent, 460 millions de dollars. C'est modeste, mais ça suffit à aiguiser les appétits. Les rapports ne sont pas publics. Une partie des fonds aurait servi à financer un barrage hydroélectrique. L'ONG réclame un audit, mais surtout, elle pose une question. À quoi sert ce fonds? Sert-il de caisse noire aux autorités ou de trésor pour les futures générations? Kinshasa est dans le viseur.
Merci beaucoup, Guillaume Audat. C'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Qu'est-ce qui se passe derrière les portes souvent fermées des institutions européennes? Eh bien, Caroline Gillet le sait.
France Inter, le 18-20.
Caroline au Pays des 27, comme tous les mardis, et ce soir, Caroline, vous faites un focus concurrence.
Absolument, encore un sujet qui, quand on a fait des études d'histoire, peut faire froid dans le dos. Olivier Gersan a été directeur général à la concurrence de la commission. Il est parti à la retraite en juillet, et le voilà qui arrive, tout fringant, sur un vélo, cheveux au vent, car il en a encore beaucoup, et avec l'air de ceux qui n'en reviennent pas encore tout à fait de ne plus devoir être en costume cravate. Il a proposé de me retrouver dans une petite guinguette du parc du cinquantenaire, juste à côté des institutions. La guinguette est charmante, mais elle n'ouvre qu'à 10 heures.
Bon, bah, pas de café, alors.
Ça va bien, bah non. Mais vous en aviez besoin ou vous...
Non, moi j'en ai pris un, moi.
Moi j'en ai pris un, mais un...
Un, c'est pas assez.
Bah, en fait, un, ça va s'il faut pas parler de concurrence.
Je vous imaginais plus vieux pour être quelqu'un qui partait à la retraite.
Tout le monde me dit ça.
Ouais. Bah, ça vous fait pas changer d'avis, visiblement.
Non.
Olivier Gersan me dit qu'il a un grand regret en partant. Que l'UE ne soit pas devenue une confédération à la Suisse.
C'est-à-dire, c'est le modèle où on met ensemble ce pourquoi, bah, si on n'est pas ensemble, on n'existe pas. Donc c'est l'armée, c'est la monnaie et c'est la diplomatie. Si on était une grande Suisse, on aurait notre grande serviette à la table des grands pour discuter des affaires du monde.
Si ça se fait, ce sera sans lui. Maintenant, il veut passer du temps dans sa maison en Corrèze, continuer à s'occuper des associations de soins qu'il a créées, et il a résisté aux offres pour du travail de conseil. Il dit « Quand on a travaillé pour la puissance publique pendant 40 ans, c'est pas pour ensuite aller travailler contre ». Je lui demande si, avant de partir à la retraite, on a la vie qui défile devant les yeux. Qu'est-ce qu'il retient de bon et de plus difficile ?
J'ai rencontré ma femme ici, qui est néerlandaise. On venait de créer le contrôle des concentrations. Et donc elle a demandé à tous les États qui avaient un contrôle des concentrations d'envoyer leurs meilleurs spécialistes. Le patron me dit, donc vous êtes un spécialiste du droit des concentrations ? Non, moi je n'ai jamais fait une concentration de ma vie. Oui, me dit-il, mais vous parlez anglais. Et donc comme j'étais à peu près le seul qui parlait anglais couramment, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici.
Dans un des papiers que je lisais sur vous, il disait que vous étiez un homme de gauche qui devait faire une politique qui était souvent regardée comme une politique de droite, en tout cas par les Français, la politique de la concurrence. Je regardais, du coup, vous savez, il y a un site internet où on peut savoir si les choses sont de droite ou de gauche.
Non, je ne savais pas.
Je ne sais pas si vous connaissez ce site, ça s'appelle De gauche ou de droite, c'est évidemment une blague, mais si on tape La Guinguette, ça dit que c'est de gauche.
Le vélo, c'est de gauche.
Ah, le vélo, c'est de gauche.
Ouais. La Corrèze.
Ouais,
vous l'avez en cathétère.
Je l'ai en cathétère.
La Corrèze, c'est de gauche.
Ah oui, la Corrèze, c'est de gauche, bien sûr.
Et donc, vous, quand j'ai tapé Olivier
Gersan, c'est de droite.
C'est de droite.
Mais ça, c'est parce que. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la politique de concurrence est une politique de droite. Pourquoi ? La concurrence, c'est en fait le principe de base de l'économie de marché. Par exemple, on a interdit à quelqu'un qui produisait des médicaments anticancéreux de racheter une entreprise qui avait inventé des tests de détection du cancer révolutionnaires parce qu'avec un seul test, on détectait beaucoup plus tôt que tous les autres tests, beaucoup plus de cancers différents. Et évidemment, quand vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'argent avec des médicaments anti-cancer, vous n'avez pas forcément intérêt à ce qu'on découvre les cancers beaucoup plus tôt parce que vous allez vendre moins de médicaments.
Il y a deux grands domaines pour la concurrence. D'abord, les règles qui s'appliquent aux États européens.
C'est d'ailleurs celle-là qui pose le plus de problèmes politiques. C'est les règles en matière de dette d'État, de subventions publiques.
La deuxième partie, c'est les règles qui s'appliquent aux entreprises. D'abord pour lutter contre les cartels.
Ça pose pas beaucoup de problèmes parce que tout le monde comprend que quand des boîtes se réunissent nuitamment pour fixer les prix au détriment des consommateurs, bah c'est pas bien.
Et enfin, les règles relatives aux abus de position dominante. Petite pause concurrence pour un café. Ça y est, ils ouvrent la guinguette.
Je veux bien un allongé.
Olivier Gersan a notamment travaillé avec Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence de 2014 à 2024 et qui est connue pour avoir infligé des amendes records aux GAFAM. C'est elle qui aurait inspiré le personnage principal de Borgen. Eh bien, je ne savais pas, mais elle tricote tout le temps, dans les réunions notamment. Et elle tricote une seule chose, des petits éléphants. Elle en a offert un premier il y a quelques années à Olivier Gersan et un autre lors de son départ à la retraite.
Elle m'a dit que ça c'était super compliqué parce qu'il est rayé noir et blanc aux couleurs du CAB, qui est le club de rugby de Brive, qui est celui que je supporte. Quand Google a tué le marché des comparateurs, vous savez, il y a, dans les années 2010, il y avait des entreprises qui comparaient en fait des offres de prix un peu partout. Et puis Google a décidé d'intégrer ce produit dans son moteur de recherche. Il a mis Google Search des résultats en première page, dans un gros placard avec des photos. Et puis tous les concurrents, eux, ils se sont retrouvés en page 36. Et donc, en quelques mois, tous les concurrents sont morts et Google a eu un monopole. Ça, c'est le type même de truc qui est interdit. Et ils le savent parfaitement. Mais à chaque fois, on leur mettait des amendes plus fortes, et à chaque fois, ils recommençaient. Quand vous atteignez, ce qui était notre cas, 4 milliards d'euros, et que ça continue, c'est que l'amende ne suffit pas. Alors, aux États-Unis, ils ont des méthodes plus radicales, ils mettent les dirigeants en tôle. Nous, un des inconvénients de ne pas être intégrés en Europe, c'est qu'il n'y a pas de prison européenne, il n'y a pas de droit pénal européen non plus. Donc nous, on met des amendes administratives. Ces boîtes, elles dirigent toutes les façons dont on consomme, dont on vit, dont on pense, dont on s'informe. Le droit de la concurrence, c'est une partie de la réponse. Mais il est clair de l'expérience des 20 dernières années que ça ne suffit pas. Donc il faut aussi qu'il y ait une régulation du numérique. Tu connais le Saint-Nectaire. Alors...
Petite pause concurrence pour parler contre pétrie. J'ai lu qu'Olivier Garçon en était fan.
C'est quoi la celle que vous connaissez qui vous
dure ? Non, j'ose même pas le dire.
Bon, j'ai glissé dans la piscine.
Ah, bon, elle est connue,
oh
celle-là.
Non, mais non, mais non.
Où il était arrivé à pied par la Chine.
Oh non, mais non, mais non. Vous les avez ?
Bah oui, évidemment qu'on les a, enfin. Ouais.
Merci Olivier Garçon.
Bah voilà. oui, alors vraiment, et puis à vous aussi Caroline, vraiment, vous reviendrez la semaine prochaine avec d'autres
contre-pétries. À pied par la Chine.
Voilà, merci Guillaume.